Donc, bienvenue à tous au nouvel épisode du podcast Hypercroissance. Mon nom est Antoine Gagné et je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter le 311e épisode. On a la chance de s'entretenir avec Mike Cormier aujourd'hui, président de l'organisation Englobe. Mike a une histoire assez atypique pour vous donner un petit peu de contexte. Il a rejoint l'organisation Crandall en 1999 comme responsable de la trésorerie. Et à travers le temps, il a gravi les échelons pour finalement devenir président de cette même organisation en 2011. Et de 2011 à 2018, il a été capable de présider l'organisation. Pour vous donner un petit peu de contexte, il rentre dans l'entreprise, ils étaient une dizaine d'employés. Et à la fin 2018, ils sont plus d'une centaine d'employés. Et c'est à ce moment que Englobe, une beaucoup plus grande entreprise qu'eux, cogne à leur porte pour venir et s'acquérir. Et après plusieurs mois de négociations, finalement, Mike et l'équipe de Crandall accepte de rejoindre les rangs de Englobe. Encore une fois, il a été capable d'épater beaucoup de gens dans l'organisation parce que ça lui a pris simplement une année de passer de vice-président du volet atlantique de Englobe parce que maintenant Crandall était à l'intérieur de cette même organisation. Et après avoir été VP atlantique, ils lui ont donné les clés pour devenir président de la dite organisation Englobe. Et par la suite, de 2018-2019 plutôt, jusqu'à aujourd'hui, 2024, ça fait environ 5 ans que Mike est président de l'entreprise et il a été capable d'accomplir très grandes choses. Ils ont fait plusieurs acquisitions dans les dernières années. Je pense juste en 2021, ils ont réalisé plus de 3 acquisitions. C'est une organisation qui a 3000 employés partout à travers le Canada, 71 bureaux. Donc, on parle ensemble, bien entendu, de l'histoire d'hypercroissance d'Englobe et surtout de comment gérer une culture d'organisation avec autant de bureaux différents. C'est assez exceptionnel, tout ça. Mike a été très généreux de son temps, donc 45 minutes, je crois qu'il va être bien investi pour vous pour le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Et sur ce, je vous souhaite un excellent épisode. Mais avant toute chose, vous vous rappelez de la règle. Si vous pouvez vous abonner sur YouTube, sur Spotify ou encore sur Apple Podcasts, ça peut faire toute la différence pour nous. Donc, merci et bon épisode. Mike Cormier, vous êtes le co-président de Englobe, une organisation de plus de 3000 employés spécialisés en ingénierie, sciences de l'environnement et traitement des sols et de la biomasse. Vous avez pris la présidence de la société en 2019 et avez complété beaucoup d'acquisitions depuis qui vous ont permis d'élargir votre gamme de services ainsi que votre empreinte géographique. Mike Cormier, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Merci à vous, c'est un plaisir.
Plaisir partagé. Et Monsieur Cormier, on va avoir une belle discussion qui nous attend aujourd'hui. Peut-être avant, par contre, de l'aborder, vous avez beaucoup de services chez Englobe. Est-ce que ce serait peut-être possible de bien nous expliquer en détail ce que fait l'entreprise?
Absolument, ça me fait plaisir. Donc, comme vous l'avez bien dit, Englobe, c'est une firme d'ingénierie, de services d'environnement. Donc, on a des ingénieurs, des technologues, des scientifiques, des professionnels qui font de la conception et de l'assurance de qualité de grands ouvrages. Donc, l'infrastructure des grands projets, c'est surtout là où nous sommes. Peut-être une bonne façon de le décrire, c'est par des projets. Vos auditeurs, auditrices, vous voyez sans doute nos employés sur des grands projets. Premièrement, des projets routiers dans la région de Montréal, la route 19, au Bas-Saint-Laurent, la route 85, à Sept-Îles, dans le nord, la Côte-Nord, la route 389. Donc, ce sont des grands projets où, sur plusieurs années, on a des professionnels là qui vérifient la qualité des travaux qui sont faits. On peut passer aussi dans les édifices dans la région de Québec. On a l'hôpital Enfant-Jésus, qui est un projet où on a des gens qui sont là pour plusieurs années à vérifier la qualité des travaux. Quand vous l'électricité aussi, donc Hydro-Québec, c'est un de nos grands clients. Donc, le barrage La Romaine, on travaille aussi sur les lignes de transmission. On va appuyer Hydro-Québec sur ces genres de projets-là. Les aéroports, de l'aéroport de Montréal, l'aéroport de Toronto, Edmonton, Calgary, surtout les enrobés, donc l'asphalte ou la surface noire. Donc souvent, on appelle ça une recette de gâteau. Donc nos professionnels vont créer la recette, ils vont vérifier dans les laboratoires comment on fait le gâteau. On ajoute un peu plus de farine, un peu moins de sel. Et donc ce travail-là, on va faire ça. On a aussi un impact dans les beaucoup de communautés sur l'eau, les aqueducs, l'eau potable. On peut penser surtout dans les communautés de Première Nation dont on est très fiers de les aider avec les sources d'eau potable là-bas. Donc, beaucoup de communautés nordiques, communautés isolées où on va les appuyer avec le traitement d'eau usée, etc. Et finalement, les sols contaminés, donc que ça soit dans les grandes villes ou que ça soit encore dans les communautés du Nord, on a des professionnels qui vont, avec leur connaissance, trouver des façons de réhabiliter ces sols-là, enlever les sols contaminés, les réutiliser à des biens bénéfiques, comme mettre des surfaces sur des mines qui sont à fin de vie. Donc, on fait beaucoup, beaucoup de choses. On est à beaucoup d'endroits. Ma mère dit qu'on est fourré partout. C'est un peu ça en globe. On est à beaucoup d'endroits. Donc, 35 des 100 plus grands projets du Canada l'année dernière avaient une présence en globe. Donc, 71 bureaux au Canada et un travail, beaucoup de proximité. Donc, ça, c'est qui nous sommes.
Incroyable. Donc, vous avez vraiment un impact important sur la société québécoise, la société canadienne. Et Mike, peut-être on va commencer un peu avec ton parcours. Un parcours qui est assez fascinant. Donc, si on fait nos petites recherches, on se rend compte que tu as commencé ta carrière juste avant les années 2000, en 1999, chez Crandall, une firme d'ingénierie à Moncton. Tu as gravi les échelons assez rapidement. On arrive responsable de la trésorerie, vice-président en 2017, finalement président Crandall en 2011. Peut-être tu pourrais nous ramener un petit peu à cette époque-là puis nous dire ce qui, selon toi, t'a permis de gravir les échelons aussi rapidement. Est-ce que c'était une envie de ta part? Est-ce que c'est des opportunités qui se sont présentées?
Je pense, premièrement, j'ai été très, très chanceux. On a souvent ça dans nos carrières. Moi, j'ai commencé, suite à l'université, j'ai commencé comme l'assistant, disons, du président de l'entreprise. Donc, j'avais un monsieur anglophone de 62 ans qui avait besoin d'un assistant parce que beaucoup de ses clients, c'était des communautés francophones au Nouveau-Brunswick, des Chidiac, des Saint-Antoine, des Richibouctou. Et donc, je passais beaucoup de temps dans la voiture avec lui. On se promenait dans les communautés du Nouveau-Brunswick. Et ces temps-là, ben, je posais beaucoup de questions. J'ai appris beaucoup à propos de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est d'être entrepreneur? Des principes de base que j'ai appris au tout début de carrière, que j'utilise encore aujourd'hui. En anglais, ils disaient « You're only as good as your last job ». Donc, la notion de faire du bon travail, projet après projet, on utilise encore ces principes-là chez Englobe. La notion de « il faut toujours livrer la marchandise », l'importance des relations d'affaires. Et aussi l'importance de mettre l'emphase sur les clients qu'on a déjà au lieu de toujours chercher des nouveaux. Donc, je pense qu'on pense souvent au développement d'affaires. On va aller chercher des nouveaux clients, mais c'est de mettre beaucoup d'emphase sur nos clients existants. Des fois, c'est là. Donc, moi, j'ai eu un intérêt du début en affaires. Puis, j'ai commencé chez Crandall. On avait 10 employés. Et, tu sais, quand on a rencontré les gens d'Englobe, on avait à peu près 115 employés à ce moment-là. Mais ça a été vraiment juste ça n'a pas été nécessairement par design. Ça a été vraiment juste une progression où on faisait les bonnes choses jour après jour après jour. Puis on prenait le rôle qu'on devait avoir pour aider l'entreprise. Donc, on a eu beaucoup de succès, disons, mais ça, c'était sur une longue période de temps. Donc.
Bien sûr, parce que si on regarde bien, tu arrives dans l'entreprise en 99, président en 2011, et t'es resté président de Crandall de 2011 à 2018. On parlera par la suite de ce qui s'est déroulé en 2018, mais je serais curieux quand même de t'entendre ici sur cette expérience-là de 2011 à 2018. Qu'est-ce que tu as changé un petit peu dans l'entreprise? Quel diagnostic que tu as fait? Parce que là, tu nous as parlé de 11 à une centaine d'employés dans l'organisation. Qu'est-ce que toi, de ton côté, tu as mis en place pour continuer à accélérer un petit peu cette croissance-là?
Ben, je pense que ce qu'on a fait à partir de ce moment-là, c'était vraiment la diversification des services. Donc, on avait une entreprise qui était dominante dans un petit marché du Nouveau-Brunswick, même pas tout le Nouveau-Brunswick, une partie du Nouveau-Brunswick, qui faisait surtout du travail qu'on appelle municipal. Donc, on aidait beaucoup les municipalités avec les aqueducs, les routes, etc. Et à ce moment-là, on a commencé une stratégie à offrir des services en bâtiment, donc l'ingénierie mécanique électrique qu'on appelle. Donc, plus de travail de bâtiment, les hôpitaux. Donc, on a élargi notre offre. On a aussi commencé cette diversification géographique-là. Donc, à plus petite échelle, on ajoutait, mais c'était surtout la notion de « on peut en faire plus ». Et je pense qu'aussi, on avait une équipe de gestionnaires dans l'entreprise qui était hyper entrepreneuriale. On avait beaucoup de gens qui... Donc, souvent, mon rôle, c'était juste de guider un peu les gens, mais j'étais entouré de gens qui chacune voulait avancer, voulait avoir beaucoup de succès. On adorait gagner, donc très, très compétitif en termes de gagner des offres de services, ajouter des nouveaux projets. Donc, ça a été, je pense que mon rôle à ce moment-là, c'était juste de créer l'environnement qui permet à des bonnes personnes de faire les bonnes choses, je pense.
Et avant peut-être de parler de l'évolution, j'aimerais t'entendre ici, te parler de diversification des services. Est-ce que selon toi, une entreprise, ultimement, doit commencer dans une plus petite niche, dominer cette niche, et quand elle est dominée, peut-être en étant tranquillement l'offre de service, au lieu de se diluer dès le départ et en essayant de tirer un peu partout? Comment tu vois ça un petit peu?
Je pense que oui. Honnêtement, je crois que le danger de trop se diluer trop tôt dans notre progression, c'est les distractions. Puis on peut courir après trop de ballons en même temps. Donc, pour nous, ça a toujours été concentrons-nous sur nous, les gens qu'on a déjà, nos clients qu'on a déjà, occupons-nous d'eux, faisons la bonne chose. Il faut aussi bâtir notre équipe. Des fois, si l'équipe n'est pas prête, donc, comme entrepreneur, des fois, on est 15 pas de l'avant, des fois, on va dire, ben, on va aller là. Mais si on n'a pas les gens qui peuvent nous suivre ou qui sont encore là dans leur progression, ben, on va avoir des problèmes. On a vu ça déjà dans les années pour moi. J'ai vu des moments où on a voulu progresser trop vite. Et l'équipe, tu sais, soit qu'on brûlait notre équipe ou qu'on faisait des erreurs qui auraient dû être évitées. Mais donc, on apprend avec le temps que se concentrer sur ce qu'on fait bien et de stabiliser ça. Là, ensuite, on ajoute. Je pense que c'est la façon la plus durable, je pense, de croître.
Intéressant. Et bon, parlons-en de ce fameux 2018. Donc, tu es toujours président de Crandall à ce moment-là. Ça fait tant que tu es président de l'organisation. Et là, il y a un gros groupe, une plus grande entreprise, Englobe, qui vient cogner à votre porte, intéressée à vous intégrer dans leur groupe. Peut-être tu pourrais nous ramener à ces discussions-là que tu avais eues quand tu étais chez Crandall avec Englobe, qui doivent remonter, à mon avis, à 2017. Ouais. Quelles ont été les premières discussions? Qu'est-ce que Englobe voyait d'intéressant chez Crandall?
Ben, je pense que la discussion avec Crandall était probablement une des premières acquisitions que Englobe voulait faire pour diversifier. À ce moment-là, on avait une Englobe qui était 80-85% au Québec et 15-20% hors Québec, soit un peu au Canada, un peu en Angleterre, un peu en France. Et je pense que la stratégie à ce moment-là, c'est allons voir s'il y a des façons de bâtir un peu notre offre hors Québec. Ils sont venus nous voir. C'est des gens qu'on connaissait, c'est comme ça. On savait qu'Englobe existait. Ils étaient très peu présents dans les maritimes à ce moment-là, mais ils avaient une belle présence en Nouvelle-Écosse, très peu au Nouveau-Brunswick. Et nous, comme groupe chez Crandall à ce moment-là, les choses allaient très bien. On avait un plan d'avenir, on avait un plan de succession, on avait une vision de comment croître l'entreprise. Donc, c'était pas vraiment nécessaire de se joindre à un autre groupe à ce moment-là. Mais on s'est dit, ben, on va écouter à ces gens-là, voir qu'est-ce qu'ils ont à dire, voir si ça peut être possiblement intéressant pour nous. Donc, c'est comme ça vraiment que ça a commencé. Effectivement, c'était septembre-octobre 2017.
Et comment qu'ils vous ont séduit? Quels ont été les arguments qui ont fait pencher dans la balance?
Ben, je pense qu'honnêtement, ils étaient gentils. il y avait une culture qui nous ressemblait beaucoup. Puis, j'avais dit à mon groupe de gestionnaires à ce moment-là, j'avais dit, écoutez, on va commencer, mais on va se donner le droit de quitter la route à tout moment si on trouve que les choses sont pas tout à fait comme on pense. Mais plus qu'on est venu à les connaître, on les trouvait qu'il y avait des valeurs très, très semblables aux valeurs du groupe de Crandall, premièrement. Puis ensuite, on se disait, ben, écoute, on a, pour l'entreprise comme Crandall, on avait nous-mêmes une vision de devenir le chef de file en Atlantique un jour, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, mais on se disait, ben là, écoute, on va joindre un groupe comme Englobe. Le carré de sable est devenu énorme immédiatement. Quelle opportunité! On a un groupe en Nouvelle-Écosse de 60 personnes. Crandall est 100 personnes à ce moment-là. Ça peut être très intéressant. Puis ensuite, on a commencé à voir Englobe, la présence au Québec, la présence hors Québec, en Ontario, dans l'Ouest. On voyait tout ça comme des opportunités. Puis étant donné qu'on est tellement entrepreneur, on pouvait juste pas résister à cette opportunité de croissance-là. Honnêtement, tu sais, 6 ans plus tard, Le groupe englobe en Atlantique est parti de 160 ensemble à presque 300 personnes. Donc, je dirais mission accomplie. Et je reviens toujours à l'histoire d'une jeune ingénieure d'une région très, très rurale au Nouveau-Brunswick. Une fois, je suis passé au bureau de Moncton, elle a dit, tu vas pas croire, je suis en train de travailler sur un projet à l'aéroport de Montréal. C'était un de ses grands rêves. Donc pour nous aussi, c'était la notion de créer des opportunités pour nos employés.
Donc, clairement, il y a une synergie qui s'installe ici avec Englobe. Et toi, tu es président de Crendall et tu arrives dans l'organisation comme vice-président des opérations atlantiques. Est-ce que ce serait bien d'expliquer un peu ton rôle comme président de Crendall, entre parenthèses, mais pour le volet Englobe dans le domaine atlantique, c'est un peu ça qui se déroulait?
Essentiellement, oui. Donc, c'est comme si j'ai eu deux jobs immédiatement. Mais principalement, mon rôle VP Atlantique, c'était d'intégrer Crendall avec Englobe Atlantique, mais aussi d'être responsable de toutes les opérations atlantiques. Mais aussi, j'avais immédiatement un siège aux tables du comité exécutif de toutes les opérations canadiennes. Donc, j'ai eu l'opportunité de venir une fois par mois à Montréal pour les réunions de gestion. Donc, ça m'a donné l'opportunité de bien apprendre comment fonctionne Englobe, qui est Englobe, qui sont mes collègues, c'est quoi nos grands défis, c'est quoi nos belles opportunités, etc. Et donc, ça a été une année, ça a été une année juste d'énorme apprentissage. Et, tu sais, j'étais habitué à ma machine. À ce moment-là, ça faisait quand même quelques années que j'étais le président de Crendall. Donc, pour moi, c'est devenu un peu routine. Et donc, on me lance dans quoi de complètement nouveau. Même les services qu'offrait Englobe étaient des services que je n'avais jamais fait dans ma carrière déjà. Je connaissais, c'était des choses qu'on aurait achetées comme Crendall. On aurait embauché une autre firme pour faire ça. Mais donc il y a eu beaucoup d'apprentissage. Mais un peu comme la première fois qu'on a rencontré les gens d'Englobe, on voyait aussi des valeurs communes entre les gens. Ouais.
Et j'aimerais te poser une question, Mike, ici, que je trouve donc fascinante. Il y a énormément de gens qui sont venus sur le podcast qui ont soit fait des acquisitions ou, d'un autre côté, ont vendu leur entreprise. Et il y a toujours un petit peu ce défi-là qui s'intègre au niveau de la transition, plutôt de l'intégration. Utilisons le bon terme, mais c'est de l'intégration d'une organisation dans une autre. Avec le recul et force est d'admettre que l'intégration a été, il y a sûrement eu des défis, mais au final, ça a été un grand succès. On a simplement regardé ton rôle aujourd'hui qui est président de l'entièreté de l'organisation. Avec l'expérience que tu as aujourd'hui, comment tu pourrais peut-être aider nos auditeurs qui nous écoutent et qui sont peut-être en passe de faire ces types de transactions-là, de les aider sur ces fameuses intégrations? Quelles sont les choses qui, avec du recul, tu referais? Et peut-être les choses que tu ne referais pas.
Ben, je pense, on dit toujours, acheter une entreprise, c'est la partie facile. C'est l'intégration. C'est là où est vraiment la magie. N'importe qui peut, si tu as assez de sous dans tes poches, tu peux acheter une entreprise, mais l'intégrer, c'est la magie. Je pense, pour nous, les cas où ça a été, disons, entre guillemets, plus facile, c'est quand on a une culture commune. Donc, pour nous, on passe beaucoup de temps en acquisition, en exploration de firmes potentielles sur est-ce qu'on voit les choses de la même façon. Et je pense que si on n'a pas quelqu'un du bord de l'entreprise qui se joint à nous, qui voit les choses un peu de la même façon que nous-mêmes, ça va être difficile. Donc, ça te prend un champion du bord de l'entreprise qui se joint à ton groupe. Puis ensuite, il faut beaucoup de conversations. Je pense nous, on a fait avec Crendall 8 entreprises, 8 acquisitions depuis que je suis là. Et je dirais que les cas où ça s'est bien, mieux passé, c'est quand on passait beaucoup de temps avec eux et eux, ils venaient à nous connaître. Donc, si on investissait plus de temps à se connaître, les choses vont plus faciles. Si on a eu une époque où on avait plein de distractions, plein de choses, on n'a pas pu passer assez de temps, c'est là où ça devient un peu plus difficile. Ça, éventuellement, ça fonctionne, mais ça prend plus de temps. Mais quand on a des champions de chaque bord, des gens qui viennent à se connaître, là, tu vois que les choses, parce qu'on voit ultimement, on a tous bénéfice de bien intégrer. La décision a été prise, les entreprises sont ensemble, donc maintenant mais aussi nous, on utilise une approche très soft, disons. On n'est pas, On n'essaie pas d'être dominant dans ça. On essaie de reconnaître que ça prend du temps. On essaie aussi d'être sensible aux réalités des employés. Et nous, notre approche aussi, c'est on veut pas perdre d'employés. On a une zéro tolérance à perdre des employés quand on fait une acquisition. Et donc, on met beaucoup d'efforts.
Mais c'est sûr que vous achetez.
Exact, exact. Donc, on met beaucoup d'efforts. On va regarder cas par cas. C'est quand on vient à harmoniser les avantages sociaux, etc. Donc, on va faire des ajustements s'il faut. Donc, on met beaucoup, beaucoup d'efforts là-dedans. Puis ça fonctionne. C'est juste, ça prend du temps, ça prend de l'énergie et le vouloir des deux bords.
Totalement intéressant. Parce que beaucoup de gens qui sont venus sur le podcast nous ont parlé de ça. C'est-à-dire que le moment, entre parenthèses, le fun est facile, c'est la négociation, c'est la transaction, oui. Mais c'est 5% de l'équation au final. Tout va jouer dans une bonne intégration, surtout dans un contexte de prestation de service où, est-ce qu'on le rappelle, les transactions souvent peuvent, oui, bien entendu, survenir pour aller chercher les parts de marché, mais plus souvent, on s'en va acheter le capital humain, entre parenthèses, oui. Ici, pour amener une ligne d'expertise encore plus poussée à l'organisation. Oui, vas-y.
Nous aussi, ce qu'on a bâti au fil des années, c'est une équipe d'intégration. Donc, on a une équipe multidisciplinaire. Ah. Et donc, on a des gens, que ce soit les systèmes, que ce soit les ressources humaines, que ce soit le développement d'affaires. Parce qu'on découvre que la synergie de revenus, de gains et plus de mandats, c'est la partie facile. Parce que les gens commencent à... Mais il faut qu'ils se parlent. Il faut qu'on trouve un moyen de se parler. Mais on a découvert aussi au fil des années de mettre l'énergie et l'investissement de bâtir une équipe parce qu'on vient à connaître, la plupart des défis vont se répéter fois après fois après fois. Et donc, avec cette expertise-là maintenant à l'interne, ça nous aide, mais ça a pris du temps à apprendre. C'est comme n'importe
quoi. J'en doute pas. Mais c'est un sujet que j'aimerais décortiquer un petit peu plus tard parce que je trouve ça vraiment fascinant, cette équipe d'intégration. Mais avant toute chose, Mike, j'aimerais parler. Bon, vice-président Division Atlantique, on voit un petit peu plusieurs rôles. C'est une année d'intégration. C'est toujours un petit peu plus de travail, on va le dire comme ça. Mais là, très rapidement, tu te retrouves en charge de l'organisation au total. On va en parler, comment tu es arrivé à faire ça et à devenir président de l'entreprise. Est-ce que ça t'avait été dit avant? Est-ce qu'on t'a parlé de ça quand on est venu cogner à la porte de Crandall? En 2018, on a vu ton profil, on sent que tu pourrais être dans la ligne de succession de la présidence d'Anglobe. Est-ce que ça avait été discuté?
Non, pas du tout. Non.
Non.
Et honnêtement, quand on m'en a parlé, quand ça commençait, premièrement, je me questionnais moi-même. J'avais géré une entreprise de 100 personnes. Donc, on parle d'une entreprise de, à ce moment-là, 2000 personnes. Est-ce que c'est les mêmes qualités, les mêmes habiletés, les mêmes connaissances? Mais ultimement, on s'est rendu là, surtout avec le fait que pendant l'année, j'avais venu à connaître l'équipe, les gens qui représentaient les autres régions, comme le Québec, les gens des services corporatifs. Puis on était honnêtement devenus déjà très proches, déjà même des amis. Puis je pense que j'avais le soutien de tous ces gens-là. Puis je pense qu'on savait aussi qu'on avait de quoi bâtir. Puis je pense que l'énergie, le désir, le défi, ces grands défis-là sont vraiment difficiles à éviter des fois quand ils sont devant nous. Donc ça s'est passé assez rapidement. Puis honnêtement, la transition... je pense que c'est peut-être une discussion de peut-être un mois de questionnement de comment on organiserait les choses, comment ça serait quoi l'impact. Parce qu'aussi, tu sais, il fallait trouver un remplaçant pour l'Atlantique si je prenais le rôle de coprésident. Et s'il y a de quoi, je m'imaginais toujours d'être irremplaçable dans les maritimes, mais ça s'est fait d'une semaine. Donc, et les gens me taquinaient parce que l'année d'après, l'Atlantique a eu des meilleurs résultats que l'année quand j'étais là. Donc, des fois, on est plus remplaçable qu'on pense. Mais je pense que ça s'est bien fait. Je suis content de la décision puis la façon aussi qu'on l'a faite. Mais on l'a faite de façon très... tu sais, on a pris notre temps et on l'a faite comme il faut, je pense.
Et est-ce que tu as eu personnellement déménager? Est-ce que tu as eu à changer de
localisation? Moi, j'ai déménagé pour un bout et là, c'est pendant la pandémie, j'étais dans la région de Montréal et donc finalement, j'ai retourné puis je fais la navette maintenant des maritimes à la région de Montréal quand je travaille. Parce que principalement, je suis à Laval, mais je fais beaucoup de déplacements, disons.
À chaque semaine? Maritime Laval à chaque semaine?
Ben, la réalité du rôle que j'ai quand on a 71 bureaux au Canada, donc il y a du déplacement presque à chaque semaine. C'est souvent soit les Maritimes, soit c'est la région de Montréal, des fois c'est l'Ontario ou l'Ouest canadien. Surtout avec la période d'acquisition qui était beaucoup concentrée sur l'Ouest l'année dernière. On a fait aussi une tournée de bureaux qui était c'est quand même une tâche fantastique. On a rencontré plus de 1000 employés en 3 semaines. C'est les genres de choses qui font partie du travail, mais qui sont aussi super valorisantes.
Intéressant. Bon, parlons un petit peu. Cette fameuse stratégie d'acquisition. Tu proviens d'une acquisition, celle de Crandall, comme on le dit, mais rapidement, quand tu as pris en charge la présidence de l'entreprise, on dirait que soit que c'était dessiné avant ou c'est toi qui as mis ça en place, il y avait un plan stratégique basé autour de l'acquisition de plusieurs organisations. J'aimerais que tu nous parles peut-être du diagnostic qui vous a poussé à prendre cette décision-là. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que le comité de direction avait entouré comme opportunité dans le marché pour se dire, bon, notre prochaine phase de croissance va devoir passer par des achats d'organisations. La croissance organique, c'est bien, mais c'est peut-être pas assez vite pour les ambitions qu'on a.
Ben, je pense, premièrement, la stratégie de croissance par acquisition, elle existait avant que je sois là. Je pense que peut-être que la nouvelle équipe et moi, on a ajusté un peu, c'était la notion de pas seulement regarder géographiquement, mais considérant deux choses. La géographie et la proximité, la présence dans les communautés, mais aussi les services. Donc, élargissons notre offre de services. Et je pense que le fondement d'Englobe, surtout au Québec, c'est Englobe au Québec, on a une firme qui est très, très forte dans les régions. On a une belle présence à Québec, à Montréal, etc. Mais on a aussi une très forte présence dans les régions. On est une entreprise à proximité, à relation. C'est le même modèle pour Crandall. Et donc, on voyait l'opportunité de trouver des firmes qui ont cette même philosophie-là partout au Canada et bâtir en Englobe une machine nationale Canada qui utiliserait cette même stratégie-là. Je pense qu'on voyait tous un marché en ingénierie, services professionnels, environnement où on avait des grands joueurs, soit des firmes canadiennes, mais des grands joueurs internationaux et beaucoup de petits joueurs. Donc, nous, on se voit dans le marché intermédiaire de ces services-là. Avec un équilibre de, oui, on a quand même une belle taille, on a une belle offre de service, mais aussi on a la notion de proximité en même temps. Donc, est-ce qu'on peut faire les deux en même temps? C'est un peu ça notre stratégie, notre philosophie. Et aussi de mettre l'emphase sur nos valeurs. On pensait l'opportunité était d'aller chercher des firmes qui ont des valeurs très semblables à celles d'Englobe à la base. Et jusqu'à date, ça fonctionne.
Et on va les nommer, ces certaines acquisitions-là. Donc, j'en nomme quelques-unes. En mars 2021, vous mettez la main sur la firme TerraProbe, qui à ce moment compte 200 employés, une organisation spécialisée dans les génies géotechniques et hydrauliques et également dans la science du bâtiment. Par la suite, dans la même année, en octobre 2021, également en décembre respectivement, les acquisitions de Protostatics et MPE, deux sociétés dans l'Ouest canadien de 30 et 230 employés au moment du rachat. Toutes des acquisitions qui, je le répète, ont lieu en 2021. Est-ce qu'il y avait quelque chose dans l'air? Est-ce que c'était la COVID? Qu'est-ce qui s'est déroulé en 2021 pour passer à autant d'acquisitions?
Ben, il y avait deux choses. Je dirais, un, c'était un peu la COVID. Mais deux, les acquisitions, c'est la pêche. Donc, on met des lignes à l'eau et on ne sait jamais. Des fois, tu pognes, je suis des maritimes, des fois, on pogne 6 macros. Des fois, tu n'en pognes pas pour 2 heures. C'est un peu la même chose. Dans ce cas-ci, on avait fait 2 acquisitions en 2019. Donc, on avait cette pause-là en 2020. Mais certainement, on est très, très fiers. Je pense que c'est aussi une évolution de l'équipe. Je pense qu'on a un œil plus affiné, je pense, sur qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce qui nous apporte du succès. Je pense, avant de même parler de la géographie ou des services, on cherche des gens qu'on pense qui vont bien s'intégrer à nous. Donc, on parlait de ça tantôt. Puis on a trouvé en MPE, surtout TerraProbe, des gens qu'on pensait qui auraient vraiment un désir de croître, des gens qui voyaient l'opportunité qui est Englobe, le carré de sable énorme pour eux. MPE, petite histoire, il était 230 quand on a fait de l'acquisition. Ils ont dépassé le 300 l'automne dernier, donc déjà au-dessus de 300 personnes. Terra Probe, ils sont presque doublés aussi. Donc c'est des gens pour qui on donne un peu les clés du char, puis ils se décollent. Puis on n'a pas besoin de leur dire fais ci, cherche sur de la croissance. Ces gens naturellement ils voient les opportunités. T'sais, on a des gens de l'Ouest maintenant qui travaillent avec nos experts au Québec pour essayer de faire des projets nationaux au Canada. Donc c'est surtout des choses que c'est pas moi ou l'équipe qui va pousser ça, c'est juste naturellement les gens vont venir à se connaître. Donc c'est pas mal intéressant de voir, surtout pour moi de un peu de l'extérieur à distance. Je trouve ça extrêmement intéressant de voir.
Ça doit être gratifiant, très gratifiant. Puis j'aimerais parler un petit peu parce que certains points qui sont très intéressants ici. Première chose, l'écosystème englobe. C'est-à-dire que demain matin, disons, je possède une firme en ingénierie pour une sphère de services spécifique que vous aimeriez acquérir, mettre dans le coffre à outils des services que vous offrez ou dans un endroit géographique qui n'est pas encore desservi. Qu'est-ce que l'écosystème englobe vient m'offrir? Qu'est-ce qui s'est déroulé avec les autres? Est-ce que c'est plus d'expertise, plus de possibilités de faire, entre parenthèses, pardonnez-moi l'anglicisme ici, du cross-selling pour vendre certains services à des clients existants? Comment vous mettez un petit peu la table pour qu'un propriétaire d'une firme se dise « Wow, l'opportunité ne peut pas être ratée ici ».
Ben, premièrement, créer un environnement où le dirigeant de l'entreprise n'est plus seul. Donc ça, c'est souvent, on se sent souvent seul quand on dirige une entreprise. Tu te fais entourer de d'autres entrepreneurs qui ont joint englobe aussi dans la même dynamique. Donc ça, c'est numéro un. Et numéro deux, on met les leaders de chaque groupe ensemble pour qu'ils viennent à se connaître. On a fait un exemple dans l'Ouest, on a fait ce qu'on avait appelé un sommet pour deux jours. L'objectif, c'était que les gens viennent à se connaître. Donc ça, c'est le premier élément. Et ça, naturellement, les gens viennent, ah, toi, tu peux faire ça. Ah, je pourrais vendre tes services à mon client, et ces genres de lignes-là se font dessiner assez rapidement. Mais ça revient avec, il faut que je puisse te faire confiance. Parce qu'on a des clients avec qui on travaille, ça fait des décennies. La dernière chose que je veux faire, c'est permettre à un étranger, en guillemets, de venir affecter ma relation. Donc on bâtit ce lien de confiance-là. Et on prend notre temps pour le reste. Donc les systèmes, c'est la deuxième étape où on aimerait avoir les gens tous sur le système financier unique. Mm-hmm. Et on présente ça de façon positive. On va dire, ça sera plus facile pour toi de faire de la vente croisée si on est tous sur le même système. Et ultimement, les dernières étapes, c'est la notion de la marque, etc. Donc nous, on a une approche qui est vraiment soft dans ce sens-là. Puis donc on stresse pas trop avec ces détails-là. Puis on leur donne aussi l'habilité de venir nous voir, dire hey, je pense que c'est temps maintenant de changer la marque. Donc on va pas dire demain matin tu changes ta marque. Donc c'est vraiment cette approche vraiment collaborative là. Je pense que tu l'as bien dit. On crée un écosystème. Donc c'est une plateforme ou un écosystème, et les gens qui sont déjà des dirigeants d'entreprise, des entrepreneurs, ils perdent pas ce qu'ils aiment, qui est effectivement ça. Donc
chaque entité reste entre parenthèses indépendante. C'est un peu comme ça que ça se déroule.
Oui, effectivement. Puis là, il y a un moment où on découvre ensemble que regarde, ça pas vraiment de raison de l'être. Petite histoire, dans le cas de Crandall, on avait des clients qui ont commencé à nous appeler Cranglobe, puis les noms étaient mélangés. Donc nos employés ont dit, garde là, c'est temps qu'on change, on va s'appeler Englobe. Et on était heureux de le faire, mais versus dire demain matin, on fait une acquisition et vous allez tous porter les couleurs d'Englobe. Mais les gens sont fiers de porter les couleurs d'Englobe quand ça vient le temps de le faire.
Fascinant. Et bon, parlons maintenant de cette équipe de transition, d'intégration, de parrainage que vous mettez en place. Je serais curieux de connaître un peu l'histoire ici parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont parlé également sur le podcast qui étaient en forte acquisition constante, qui ultimement n'avaient pas le choix d'avoir une équipe attitrée à ces types de mécanismes-là. Même qu'il y avait Vincent Godchild sur le podcast qui nous disait que quand il faisait des acquisitions, il y avait des parrains qui était mis pour chacun des employés pour s'assurer qu'ils soient capables de comprendre comment la grande machine fonctionne. Parle-nous un petit peu de cette équipe-là. Parle-nous également de peut-être certains points que vous êtes fiers d'avoir mis en place avec cette équipe-là qui pourrait aider encore une fois les gens qui nous écoutent aujourd'hui.
Mais je pense que pour nous, ça revient à à la connexion humaine, premièrement, c'est là où ça commence. Et je pense que on a toujours un parent de l'acquisition de l'entité. Souvent, c'est dans notre cas, c'est le vice-président principal de la région, parce que nous, on s'organise par vice-président principal régional. Donc, s'il y a une acquisition au Québec, c'est le vice-président principal du Québec qui s'occupe ultimement de cette acquisition-là. Et à partir de là, on a des gens qui vont souvent, on va faire des connexions par discipline. Donc, si tu es un ingénieur de civil, ben, tu vas avoir quelqu'un de chez Englobe qui va être ton parent et ta connexion. Donc, c'est ce qui est la priorité un pour nous. Puis ensuite, dans l'équipe d'intégration, on a une équipe qui est pluridisciplinaire. Donc, on a un volet ressources humaines, on a un volet système, on a un volet TI. Et ces gens-là vont commencer à bien connaître l'entreprise, voir c'est quoi les défis, qu'est-ce qui sont les bonnes choses. Et on va souvent leur demander, OK, c'est quoi vos grands défis? Donc, exemple, nous, on a à l'interne une belle équipe de juridique. Et souvent, une petite entreprise, ils n'ont pas les moyens d'avoir des avocats à l'interne. Donc, on va aussi chercher les choses qu'on peut faire pour leur donner un coup de main. Donc, c'est encore une fois, c'est comme on offre un service. Donc, le service juridique, le service de le recrutement, par exemple, qui est un défi pour tout le monde. On a une équipe de 9 recruteurs professionnels chez Englobe. Éventuellement, on va dire, bon, vous voulez de l'aide, mais on va vous donner de l'aide. Donc, c'est un peu, puis éventuellement, ben, on est tous dans la même famille, puis on a tous avantage d'aider ces groupes-là. Mais nous, on parle jamais de la notion d'acquisition. C'est, tu joins notre plateforme ou notre écosystème, puis, je pense, mais il y a beaucoup d'efforts, étant donné qu'on est des ingénieurs, on traite ça comme un projet. Donc, on a des réunions, puis on a des rapports, puis on fait c'est quand même des calendriers de travaux. On a une chargée de projet professionnelle que sa job, c'est de gérer la notion d'intégration. Donc, on met quand même de la rigueur derrière tout ça. Donc,
Puis j'imagine que plus vous grandissez, plus vous gagnez en vélocité sur tous ces aspects-là. C'est-à-dire, plus votre entreprise est grande, plus ça va devenir intéressant et facile d'aller chercher les employés parce que vous avez encore plus de portée, encore plus facile d'aller chercher les clients. Donc, il y a un peu ce principe de prime au vainqueur qui s'installe ici, plus vous êtes capable de grandir.
Oui. Je pense aussi que l'équipe devient de meilleure en meilleure et on apprend à chaque fois. Puis je pense qu'on se donne aussi la confiance d'aller chercher, de se donner un peu plus d'opportunités d'aller chercher des entités aussi. Donc, ça, c'est comme si c'est effet boule de neige un peu.
Et là, on a parlé de l'Ouest canadien, on a parlé un petit peu du vol atlantique en début de podcast. Si on parle, on continue en expansion géographique, est-ce que d'autres provinces que vous visez, peut-être même d'autres pays, comment ça se dessine un peu?
On a souvent la discussion à l'interne sur l'international. On a des opérations aujourd'hui un peu en France, un peu en Angleterre. Pour nous, je pense que le Canada, c'est encore, l'objectif, c'est de continuer à croître, devenir le leader au Canada. Les États-Unis, on se fait tirer souvent par nos clients vers les États-Unis. Donc, je pense de plus en plus, il y a de la pression vers est-ce qu'on va avoir une présence là-bas. Mais on a encore beaucoup de chemin à faire au Canada même. On fait beaucoup de choses, mais on le fait pas partout. Mais par exemple, au Québec, on est dominant dans ce qu'on fait aujourd'hui, dans trois types d'ingénierie, service, environnement, mais on a beaucoup d'autres qu'on pourrait faire. Donc, pour nous, je pense que les prochaines années, ça va continuer à être le focus Canada avec peut-être un peu des États-Unis, mais c'est beaucoup plus facile de se concentrer chez toi que s'en aller ailleurs. Des fois, ça peut être comme le fun d'aller ailleurs, mais c'est plus complexe et ça prend plus d'énergie. Donc.
Intéressant. Peut-être j'aimerais bifurquer, Mike, la conversation un peu sur le volet ESG. J'ai feuilleté votre site Internet, vous sortez un rapport d'impact à chaque année que j'ai eu la chance de lire. Vous avez lancé un programme Inspiration L en 2023 pour mettre de l'avant le leadership au féminin. Vous avez également des initiatives comme votre réconciliation avec les peuples autochtones. Quelle importance joue le volet ESG avec Englobe et à quel point ça a même un impact un petit peu sur la croissance de l'entreprise?
Ben, c'est une de nos grandes fiertés. Je pense que Englobe est à la base une entreprise qui était concentrée sur l'environnement. Donc, les années 60, on faisait du compostage, par exemple, quelque chose qui était hyper n'était pas vraiment connu, pas très populaire. On a monté des technologies pure québécoises. Et donc, le volet environnement de ESG, c'est très naturel pour nous. Mais dans les dernières années, on découvre que le ESG, c'est le S devient de plus en plus important, le volet social. Et souvent, ce que je dis chez nous, c'est nous, on est chanceux parce qu'on a des gens qui ont des connaissances spéciales, des connaissances techniques, comme des ingénieurs, des scientifiques, qui peuvent aider les grands défis des communautés aujourd'hui. Donc, le volet S pour nous, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour faire une différence. Et quand on est dans une ère où toutes les entreprises québécoises, canadiennes, il va juste pas avoir assez de gens pour livrer ce qu'on veut faire, une entreprise qui fait une différence va pouvoir se démarquer. Donc, pour nous, l'année dernière, on a monté une nouvelle version de notre plan. On commence à faire vivre ça. Je suis content que tu aies mentionné l'inspirationnel. C'est une idée de Marie-France Lavallée, notre vice-présidente ressources humaines et son équipe, que j'adore. Donc, on a eu, je pense, 50 nominations l'année passée, des employés à l'interne de gens. Donc, il y avait une femme dans l'entreprise qui l'avait inspirée. Donc, 50 belles histoires. Et la gagnante, Maria Latella, elle ne sait même pas pourquoi elle a gagné. Donc, c'est un signe qu'elle était, elle a quand même inspiré plusieurs gens. Mais des gens qui, normalement, n'auraient pas des éloges ou des prix. Puis on a aussi un prix qu'on appelle Audace d'agir, qui est des gens qui ont un impact sur leur communauté. Donc, c'est on a Marion Richard de Québec qui a fait 1000 kilomètres en planche à voile pour une levée de fonds pour la santé mentale. Donc, c'est des histoires dans une entreprise comme chez nous de 3000 personnes, dans sans doute les entreprises de vos auditeurs, qu'on oublie ces histoires-là des fois. Puis je pense que c'est là où le ESG peut nous faire vivre ça un peu de façon un peu plus organisée, disons, où des fois, faut s'arrêter puis voir les belles choses qu'on fait comme entreprise.
Et comment qu'on arrive à garder, maintenir, inspirer une culture de 3000 employés? Souvent, on entend beaucoup de trucs et des astuces pour des organisations de 100, 250 employés. On a des gens dans le domaine public également qui viennent nous parler un petit peu. On avait le président d'Industrielle Alliance qui est venu récemment, qui nous a parlé de comment qu'ils maintiennent une culture d'organisation chez IA avec 9000 employés. Mais il nous le mentionne, c'est pas facile. C'est pas facile, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Comment vous, chez Englobe, vous y prenez?
Ben nous, ce qu'on fait, on a quelques principes de base, et dont le principal, c'est la bienveillance sans compromis. Donc pour nous, on voit la bienveillance comme étant, on s'occupe les uns des autres, on parle de la santé et sécurité, on fait des belles choses dans les communautés, on aide nos clients, on fait des bons projets. Donc pour nous, ça c'est le cœur de l'entreprise. Et à partir de là, la culture est locale. Donc, à 71 bureaux, si vous et moi, on allait se promener puis on allait voir les bureaux, vous verrez qu'ils sont complètement différents. Rimouski, c'est différent qu'à Sept-Îles, c'est différent qu'à Varennes ou c'est différent qu'à Thunder Bay. Et donc, pourvu qu'on a le cœur, qui est la notion de bienveillance, à partir de là, on laisse les gens s'occuper de leur culture locale et sinon, je pense que je sais pas comment faire autre que laisser les gens s'occuper les uns des autres, honnêtement.
Ça fait énormément de sens. Parce que, effectivement, des réalités, des dynamiques, des économies, des défis de société vont être totalement différents d'une ville à l'autre, d'une province à l'autre. Donc, tu peux pas commencer à penser qu'une certaine manière d'opérer va automatiquement s'appliquer à chacune des villes et chacune des provinces.
Non, pas du tout.
Intéressant. Bon, Mike, peut-être avant de passer à certaines questions un petit peu plus personnelles que j'aime toujours avoir avec mes invités, qu'est-ce qui vous attend pour la suite? Est-ce qu'on a toujours faim d'ambition? On veut grandir, plus de lignes de service? Qu'est-ce qui vous attend?
Je pense que c'est oui à toutes ces choses-là, mais effectivement, on est dans un domaine où les défis de société vont pas s'arrêter dans les prochaines années. Pas juste deux prochaines années, mais 10, 15 prochaines années. Les défis des grandes villes avec la population croissante, les défis du changement climatique, les défis de la transformation, la décarbonisation de la société aussi. Et heureusement pour une entreprise comme Englobe, on a des connaissances dans ces domaines-là. Donc, pour nous, on pense encore qu'il va y avoir beaucoup plus d'opportunités de travail qu'on pourra trouver des gens. Et je pense pour nous, étape 1, c'est de continuer à se concentrer sur la notion d'employeur de choix. La notion de ESG, comme on a parlé tantôt, je pense que c'est une façon de se démarquer aussi, d'envoyer le message à des futurs employés que nous, on fait une différence chez nous et venez nous aider à faire cette différence-là. Donc, je pense que ça va être là où va être beaucoup nos efforts. Les acquisitions vont continuer aussi. J'espère que ça puisse continuer à chaque année d'amener des belles entreprises dans notre environnement. Je pense qu'on est vraiment au tout début de ce qu'on a commencé il y a quelques années, que les gens ont commencé longtemps avant moi. Mais à partir de ce cœur-là qui est la bienveillance, il n'y a pas de fin, je pense, à notre chemin futur.
Beaucoup d'ambition, j'adore ça. Bon, Mike, des petites questions personnelles que j'aime toujours savoir de mes invités. Lecture. Est-ce qu'il y a des livres d'affaires, de management qui t'ont marqué, que tu pourrais partager avec notre audience?
Ouais, j'ai juste il y a quelques semaines commencé à lire le livre Couche tard ou l'audace de réussir, l'histoire de Alain Bouchard que j'aime beaucoup. J'ai pas terminé encore, mais c'est un livre très intéressant, un vrai entrepreneur qui a bâti à peu près de rien une machine complètement intéressante. Aussi le livre en anglais c'est Atomic Habits, en français c'est Un rien peut tout changer de James Clear. C'est un autre que je trouve très pertinent pour les entrepreneurs et probablement vos éditeurs. Donc, ce n'est deux que j'ai beaucoup aimé dans ces temps-là.
Podcast, hein? Est-ce qu'on en a quelques-uns?
Dernièrement, j'écoute Les Dérangeants que je trouve intéressant. Et en anglais, j'écoute Smartless que je trouve aussi et comique et intéressant. On amène souvent différentes personnes qui racontent leur histoire de vie. Donc,
Smartless et Les Dérangeants, c'est bon à savoir. Et à quoi ressemble la routine du président? À mon avis, elle doit être souvent en déplacement. Je serais quand même curieux de t'entendre ici.
Ben, je dirais qu'il y a toujours beaucoup de café. Je mange une tasse de café qui va tout de suite. Il y a du café, beaucoup de conversations. Moi, je suis allergique à la bureaucratie, donc j'encourage toujours les gens autour de moi attendons pas pour des réunions formelles, attendons pas pour la réunion du mois ou la réunion de la semaine. S'il y a un défi, un enjeu, on se parle. Donc, c'est beaucoup de conversations. La plupart des journées, il va y avoir une discussion sur un élément quelconque en ressources humaines. Donc souvent on va parler de ces choses-là et ultimement les acquisitions, c'est un élément où on va peut-être pas à chaque jour, mais je dirais qu'il y a très peu de semaines où je vais pas passer du temps à regarder quelque chose relatif à la croissance, relatif aux acquisitions.
J'en doute pas parce que ça fait partie de votre travail essentiellement maintenant de trouver les nouvelles lignes de croissance, les nouvelles organisations qui vont se joindre au groupe, là.
Mais je pense que le rôle dans toute entreprise, notre rôle souvent, c'est on devient chef d'orchestre. Donc, on a des super bonnes personnes qui font leur travail. On est là pour les guider, répondre à des questions, poser des questions ici et là. Mais ultimement, quand on compare mon rôle comme à 100 personnes versus aujourd'hui à 3000 personnes, il y a beaucoup d'éléments qui sont plus faciles à gérer une entreprise de 3000 personnes que 100 personnes. Parce qu'à 100 personnes, on est le plombier, on est l'électricien, on est tout et tout et tout. Tandis que dans une plus grande entreprise, on est entouré de professionnels qui font leur travail, puis on est souvent juste, on guide plus, on pose des questions et on guide plus que rien d'autre.
Intéressant. Mike, pour terminer, si on veut en apprendre un petit peu plus sur vous, peut-être si on veut travailler pour vous, devenir client ou même qu'on a une organisation dans votre ligne d'expertise et qu'on aimerait se joindre à vous, meilleur endroit pour vous rejoindre?
Site web, englobecorp.com. Donc, il y a un endroit pour vous pouvez vérifier l'information. Donc, faites-nous signe. Aussi LinkedIn, je suis là. Donc, faites-moi signe si jamais vous voulez plus d'informations sur Englobe.
Fantastique. On mettra des liens dans les notes de l'épisode. Mike Cormier, totalement fascinant. Une carrière exceptionnelle, commence chez Crandall, termine chez Englobe, président, 3000 employés, c'est assez impressionnant. J'espère que les gens qui écoutent le podcast aujourd'hui vont avoir été autant impressionnés et fascinés que moi. Donc, je te remercie. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.